Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur l'antenne de Graphite. Je m'appelle Jean-Noël et tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite, nous parlons de l'actualité scientifique. Depuis quelques années maintenant, nous faisons partie des murs, comme l'a si bien dit Enrique la semaine dernière. Enrique que j'embrasse et qui est juste avant nous avec Yubala Soez sur l'antenne de Graphite tous les samedis. Donc on feuillette un petit peu la revue de presse de l'actualité scientifique sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet avec bien sûr la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts de cette émission et de toutes les émissions d'ailleurs de Graphite. Aujourd'hui, 13 septembre. Ah, il y a pas mal de choses qui se sont passées un 13 septembre. En 1848, il y a Phineas Gage qui subit un traumatisme crânien, ce qui permet une meilleure compréhension du fonctionnement du cerveau. Phineas Gage, c'est un contremaître des chemins de fer américains. Il est connu pour avoir subi un profond changement de personnalité à la suite d'un traumatisme crânien majeur, ce qui a fait de lui un cas d'école en neurologie, parce qu'on n'avait pas nécessairement bien fait le lien, on va dire. Alors aujourd'hui, ça nous paraît quand même évident, mais là, en 1848, eh bien, c'est un petit peu un cas d'école grâce à Phineas Gage, malheureusement, qui a subi ce traumatisme crânien. Et donc, on a essayé de comprendre un petit peu plus. 1959, lancement de la sonde soviétique Luna 2 qui atteint la Lune le lendemain en 1959, c'est-à-dire 10 ans avant le premier pas de l'homme sur la Lune. C'est quand même assez fascinant, et c'était un 13 septembre. Et en 1994, toujours un 13 septembre, à Toulouse, premier vol du Beluga d'Airbus, l'avion gros porteur le plus volumineux du monde. Il y a quand même 31 ans, mine de rien, c'est assez impressionnant. Robert Robinson, ou Robinson d'ailleurs, non, il est anglais, donc on va dire Robinson, il est né le 13 septembre 1886. Il est chimiste britannique, spécialiste de la chimie des substances naturelles des plantes, notamment les pigments, les alcaloïdes. Il est lauréat du prix Nobel de chimie en 1947. Décès de Jules Rochard. Il est décédé un 13 septembre également, 1896, à Versailles. C'est un médecin, un chirurgien de la marine, professeur de médecine, inspecteur général de la marine. Il était président de l'Académie nationale de médecine. Alors, aussi bien Robert Robinson et Jules Rochard, je crois que c'est deux noms que... Bon, il y a peut-être une rue Jules Rochard quelque part, hein. Il est né à Saint-Brieuc, donc je me dis que Saint-Brieuc a peut-être une rue, une avenue. On va lui souhaiter une avenue Jules Rochard, mais effectivement, ce sont deux personnalités qui ne sont pas nécessairement passées à la postérité. Et pourtant, il y en a un qui est prix Nobel de chimie et l'autre qui a quand même été président de l'Académie nationale de médecine. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a des moments où, comme ça, la notoriété ne suit pas ce qui avait été prévu au départ. Je pense que ça doit être ça. Vous êtes sur l'antenne de Biotine, sur l'antenne de Graphite, et vous écoutez donc Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. C'était la rentrée la semaine dernière. Et il y avait quand même pas mal d'articles que je voulais évoquer la semaine dernière et que j'ai pas eu le temps d'évoquer. Donc j'ai encore, je crois, encore 4, 5, 6. Oh là, j'ai plein de pages qui me restent de la semaine dernière et qu'on va évoquer aujourd'hui avec des sujets un petit peu variés. Ça va être intéressant justement d'évoquer tout cela. Alors comme on parlait de la rentrée, je vais peut-être commencer par cet article que j'avais évoqué concernant les enseignants qui s'inquiètent des nouvelles générations. Hein. Un monde où la technologie est quand même assez omniprésente, mais il y a un paradoxe assez surprenant qui émerge. Les jeunes générations qui sont pourtant nées à l'ère du numérique, eh bien, les jeunes générations peinent à maîtriser les compétences informatiques de base. Ce constat a été mis en lumière par des enseignants et des chercheurs à la fin de l'année 2023, et ça révèle une réalité préoccupante qui remet en question notre perception des natifs du numérique, alors que les smartphones règne bien sûr en maître dans la vie quotidienne des adolescents, eh bien leur aptitude à utiliser un ordinateur pour des tâches simples, eh bien tout ça, ça s'érode, ça soulève des inquiétudes quant à leur future adaptabilité professionnelle. Et une chercheuse en sciences de l'information et de la communication qui s'appelle Anne Cordier, qui a constaté un déclin alarmant des compétences informatiques chez les élèves du CP au lycée. Ce phénomène qui est loin d'être isolé est corroboré par Cécile Catelin, qui est professeure de lettres et formatrice en usage numérique. Et Cécile Catelin rapporte que même les actions élémentaires comme, par exemple, ouvrir un document Word, eh bien, ça pose problème à de nombreux lycéens. C'est quand même assez étonnant. La période de confinement liée au Covid-19 a mis en exergue ces lacunes, ce qui a révélé aussi l'impréparation des élèves face à l'enseignement à distance. Yasmine Bouenot, qui est spécialiste en éducation numérique, a remis en question l'idée reçue selon laquelle la maîtrise des réseaux sociaux et des jeux vidéo équivaudrait à une compétence informatique globale. Eh bien non, ça n'est pas le cas. Le smartphone apparaît comme le principal suspect dans cette équation parce qu'il est offert dès le plus jeune âge et il favorise un usage récréatif du numérique au détriment des compétences bureautiques et professionnelles. Et cette omniprésence du smartphone crée un fossé entre l'utilisation intuitive d'applications mobiles, ça on maîtrise, et par contre, maîtriser de façon plus complexe des logiciels sur l'ordinateur, là c'est un petit peu plus difficile. L'accès aussi inégal aux technologies accentue la disparité entre les élèves. Anne Cordier souligne que les enfants issus des milieux populaires sont particulièrement touchés par ce phénomène. La crise sanitaire a mis en lumière cette fracture numérique, l'ordinateur devenant indispensable pour suivre une scolarité à distance. Et paradoxalement, Cécile Catelin observe que même dans les lycées privés où on pourrait s'attendre à une meilleure prise en main, on va dire, du numérique, les compétences des élèves ne sont pas nécessairement supérieures. Elle note notamment que les parents, y compris ceux issus de catégories socio-professionnelles supérieures, partagent peu leurs connaissances informatiques avec leurs enfants. C'est-à-dire que les parents ont des connaissances de maîtrise de logiciels et de l'ordinateur qu'ils ont appris parce que ça s'est développé un peu en même temps qu'eux, sauf qu'ils n'ont pas transmis cette compétence à leurs enfants. Et cette situation soulève des questions sur la transmission intergénérationnelle des compétences numériques. Et ça met en évidence la nécessité d'une approche éducative plus systématique. Alors, au-delà des simples compétences techniques, Yasmine Bouenot met l'accent sur les défis liés à la communication numérique. Les élèves qui sont habitués aux échanges informels sur les réseaux sociaux, ils peinent souvent à adopter un ton professionnel dans leur communication numérique et électronique. Cette lacune, elle se manifeste par des difficultés à, par exemple, rédiger un email formel, à utiliser des formules de politesse appropriées, à structurer aussi un message de façon et de manière cohérente. Ça, ils ont vraiment des difficultés à aborder cela. Et donc, pour remédier à ces carences, cette chercheuse préconise un apprentissage des bonnes pratiques de communication numérique adaptées aux différents contextes professionnels et académiques. Et face à ces défis, il y a diverses solutions qui sont proposées. Alors, par exemple, Cécile Catelin, qui a mis en place une plateforme qui s'appelle Educati, avec deux E à la fin, suggère l'intervention de professionnels du numérique dans les établissements scolaires. Et cette approche, elle vise à apporter une expertise pratique et actualisée aux élèves. Et Anne Cordier, qu'on a évoqué également dans cet article de Futura Science, elle plaide quant à elle pour une réintégration de l'enseignement des bases de l'informatique dans le cursus scolaire. Elle souligne l'importance de fournir un équipement adéquat dans les écoles, l'importance d'intégrer l'informatique dans la routine quotidienne des classes et l'importance aussi de former les enseignants aux compétences numériques. Des mesures qui visent à combler le fossé technologique et à préparer de façon efficace les jeunes générations aux exigences du monde professionnel moderne. L'enjeu est de taille, il s'agit de transformer des utilisateurs passifs de technologie en acteurs compétents et critiques du monde numérique. La maîtrise des outils informatiques s'avère cruciale pour l'avenir professionnel et citoyen des jeunes générations, ce qui appelle donc une refonte urgente de notre approche de l'éducation numérique. Donc voilà, c'est une alerte qui est lancée par ces enseignants qui s'inquiètent des nouvelles générations. Ils ne savent même pas copier-coller, disent certains enseignants. Effectivement, c'est un constat assez paradoxal, assez étonnant, effectivement, quand on constate que les jeunes générations baignent dans le numérique et en fait, elles baignent sur des applications qui sont déjà totalement, mise en place, donc il n'y a pas nécessairement derrière une réflexion, une démarche, des compétences à élaborer. Et ça, effectivement, par rapport à la génération d'avant qui, elle, maîtrisait plus les logiciels, c'est effectivement quelque chose qui est assez, assez inquiétant, en tout cas assez étonnant, et ce qui a été révélé dans, et repris notamment par cet article de Futura Science que je trouvais assez intéressant. Autre chose, c'est également cet été, on a, enfin même déjà depuis un certain temps, hein, on parlait pas mal de ces eaux minérales naturelles en bouteille. Est-ce qu'elles sont vraiment naturelles, hein ? On sait que depuis plusieurs mois, eh bien, l'image des eaux dites minérales naturelles est sérieusement écornée. Hein. Il y a une enquête préliminaire qui vise notamment Nestlé Waters, qui est Nestlé propriétaire de Contrex, de Épar, de Perrier, de Vittel. Et puis aussi, il y a une enquête qui vise les sources Alma. Derrière, il y a Cristalline, il y a Saint-Thior, il y a Vichy Célestin. Et cette enquête préliminaire, elle vise ces deux sociétés, notamment pour des pratiques contraires à la réglementation encadrant cette appellation. Il y a un vent de méfiance qui secoue désormais la filière des eaux minérales naturelles en France. Toutes ces marques, jusqu'alors perçues comme pures et inviolables, eh bien, elles sont désormais au centre d'un véritable scandale environnemental et sanitaire. Selon la loi européenne, en fait, une eau minérale naturelle doit provenir d'une source protégée, être d'une pureté originelle et ne subir aucun traitement chimique ou désinfectant. Seules des opérations physiques comme la filtration ou l'aération sont autorisées. L'objectif, c'est de garantir que l'eau mise en bouteille soit identique à celle prélevée à la source. Or, on a appris cet été, précisément le 9 août, via Mediapart, qui était appuyé par des investigations de l'Office français de la biodiversité, que les eaux Contrex et Épar, donc qui sont produites par Nestlé Waters, eh bien, contiennent des taux de microplastiques jugés incommensurable. Alors les chiffres, c'est 515 particules de microplastique par litre pour Contrex, plus de 2000 pour Épar, soit des niveaux jusqu'à 1 million de fois supérieurs à ceux observés dans les lacs, dans les fleuves ou les rivières. Alors ces analyses, elles trouvent leur origine dans une enquête visant 4 décharges sauvages remplies d'anciennes bouteilles en plastique situées à proximité des sites de Nestlé Waters dans les Vosges. Et selon les enquêteurs, ces déchets pourraient avoir contaminé les sources en amont de la mise en bouteille. Le groupe, lui, réfute toute pollution et affirme que 3 contre-analyses indépendantes n'ont détecté aucune trace de microplastique dans ces eaux. Alors la justice devra, quant à elle, un petit peu départager ces résultats opposés. Si la présence de microplastiques était confirmée, eh bien les répercussions pourraient être majeures. Ces petites particules de plastique ont la capacité de passer toutes les barrières de nos organes et comme nous ne savons pas les digérer, elles s'y accumulent et perturbent le bon fonctionnement, pouvant provoquer tout un tas de maladies. C'est ce qu'explique Nathalie Gontard, directrice en sciences de l'aliment et de l'emballage. Le procès lié aux décharges sauvages dans les Vosges est prévu en novembre prochain. Donc on aura bien sûr un petit peu plus d'informations pour cela. Dans le Gard, c'est la marque Perrier qui est elle aussi dans la tourmente. Après une contamination bactérienne l'année dernière, eh bien Nestlé Waters a mis en place un système de microfiltration illégale, soit avec des rayons ultraviolets, des filtres à charbon ou des micro-mailles ultra-fines couramment utilisées pour éliminer les bactéries. Ça a été retiré début juillet 2025 pour se conformer aux normes, mais malgré ce retrait, il y a un rapport sénatorial qui date de mai dernier qui estime que l'État a sciemment dissimulé le problème, orchestrant une stratégie délibérée d'opacité depuis 2021. Donc depuis 4 ans, ça dure comme ça. L'eau de Perrier est puisée dans des nappes profondes du sud de la France. C'est entre Nîmes et Montpellier, une région qui est densément peuplée, qui est marquée par une agriculture intensive, marquée aussi par des étés méditerranéens particulièrement chauds. Donc la crise climatique avec ses sécheresses répétées a désormais un impact inédit sur ces aquifères réputés protégés. Et selon l'hydrologue Emma Aziza, la combinaison de sécheresse prolongée, d'inondations un peu soudaines et d'un pompage excessif, eh bien, tout ça fragilise l'intégrité de ces réserves. Ça favorise les risques de contamination et ça réduit les volumes disponibles. Et donc une situation qui remet en question le modèle d'exploitation des eaux minérales qui était jusqu'ici perçu particulièrement comme durable, bien évidemment. Et l'an dernier, il y a une contamination qui avait conduit à la destruction de millions de bouteilles. Mais Perrier continue d'affirmer que la qualité de son eau est irréprochable. Pour l'hydrologue Jérémy Pralon, l'eau elle est captée à 130 mètres de profondeur, elle est protégée par une couche de calcaire, donc elle reste 100% pure et elle conserve une composition minérale constante. Mais il reste que l'absence de normes européennes claires sur le niveau de microfiltration toléré, ça entretient une espèce de zone grise un peu réglementaire. Et donc, quand il y a une zone grise, finalement, c'est toujours là que ça se passe. Le groupe a renoncé à la filtration qu'on appelle ultra fine, pour passer à un système un peu moins fin, un système plus large qui a été validé par l'État et ne sollicite désormais le statut d'eau minérale naturelle que pour deux de ces cinq forages. Alors pour l'heure, une décision européenne sur le maintien du statut de l'eau Perrier est attendue cette année. Une première potentielle en 160 ans quand même d'histoire de la marque. Donc entre pollutions invisibles, les effets du changement climatique, les zones grises réglementaires, eh bien le scandale des eaux minérales remet en question un symbole de pureté et de naturalité. L'État a d'ailleurs saisi la Commission européenne pour déterminer à quel niveau la microfiltration reste compatible avec l'appellation eau minérale naturelle, une décision qui pourrait redéfinir durablement le marché. Alors reste à savoir si la confiance des consommateurs survivra aux révélations à venir et si demain nos bouteilles d'eau minérale naturelle porteront encore ce nom. Reste à savoir, bien sûr, on suivra l'actualité judiciaire, parce que là maintenant on est dans non plus une actualité purement scientifique, mais une actualité judiciaire dans les prochaines semaines, bien évidemment. Vous écoutez Biotine, l'actualité scientifique et la musique sur l'antenne de Graphite.
Trying to ride through the morning.
However, c'était The Landskies.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Sur l'antenne de Graphite, 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM. Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. L'année dernière, les États-Unis ont découvert avec effroi qu'un groupe de hackers lié au gouvernement chinois avait réussi à pénétrer les opérateurs de télécommunications du pays. Ce groupe s'appelle Salt Typhoon. L'affaire n'est pas limitée aux États-Unis. Hein. Selon une nouvelle déclaration du FBI, il y a plus de 80 pays qui ont été visés. Pour pénétrer les réseaux des opérateurs, eh bien, les pirates ont exploité ce qu'on appelle des backdoors, c'est-à-dire des portes dérobées imposées par les gouvernements pour la surveillance légale, notamment dans le cadre d'enquêtes criminelles. Il y a un rapport signé par 23 agences de renseignement issues de 13 pays, hormis la France, qui indique que donc ce groupe Salt Typhoon est en activité depuis au moins 2021. Le but des pirates, c'est de pouvoir cibler certains individus et donc pouvoir les suivre dans leurs déplacements à travers le monde. Et pour cela, ils ont aussi visé les secteurs de l'hôtellerie et des transports, ainsi que les infrastructures militaires. Le rapport désigne aussi 3 entreprises chinoises complices. Ces 3 entreprises travaillent pour les services de renseignement chinois. Alors, sans grande surprise, la Chine a nié, hein, bien sûr, tout en bloc, selon le Wall Street Journal. Et le FBI pense avoir réussi à contenir les hackers et à publier des détails techniques pour aider les entreprises à repérer les intrusions sur leur réseau. Alors, toutefois, dans une interview avec le Washington Post, Brett Leverman, qui est assistant directeur de la division cyber du FBI, a expliqué, en tout cas il a indiqué, que la menace était toujours présente et que les pirates ont des accès dissimulés dans divers logiciels. Alors, cela montre l'importance d'utiliser des messageries chiffrées de bout en bout, d'éviter les SMS qui n'offrent aucune sécurité. Alors, toutefois, le projet qui s'appelle Protect de l'Union européenne souhaite imposer des portes dérobées dans le chiffrement de bout en bout, ce qui ouvrirait une brèche dont pourraient profiter les groupes comme Salt Typhoon. Bref, on ne s'en sortira pas, mais en tout cas, voilà, le FBI dévoile un plan d'espionnage chinois d'ampleur totalement inédite. 80 pays ont été infiltrés, c'est quand même assez important, bien évidemment. Autre sujet, aucun rapport, et on va parler un petit peu de matériaux d'habitation, et notamment de bois, parce que le bois est une ressource amplement utilisée pour bâtir des habitations, des églises ou d'autres lieux culturels, et ça depuis des siècles, on le sait. Il y a certaines structures qui sont même encore debout, notamment il y a une église qui a été édifiée au XIIIe siècle en Norvège, qui s'appelle l'église de Heidelstedt, qui est encore debout, et elle est en bois. Alors, avant Milwaukee, il y a quelques immeubles en bois qui ont vu le jour. En 2019, en Norvège, il y avait la... Alors, je ne sais pas parler le norvégien, parce que vous savez, il y a toujours des lettres assez compliquées. Je crois que ça dit... Mais John Starnet, en tout cas, c'est la plus haute tour du monde, avec 84 mètres de haut. C'était la plus haute à ce moment-là. Puis il y a Amsterdam qui a accueilli un gratte-ciel mesurant 73 mètres. Et Paris, plus récemment, a inauguré le Wood Hub, et plus de 50 mètres de haut. Mais le projet de Milwaukee, qui est pensé par un promoteur immobilier qui axe son projet sur le bien-être des résidents et le développement durable, eh bien, il promet de battre un record mondial dans 2 ans, 2027, celui du plus haut immeuble construit à base de matériaux bois biosourcés, dont la taille avoisinera les 110 mètres de haut. C'est un gratte-ciel record qui sera donc en bois. La ville n'est pas son premier coup d'essai, puisqu'elle a vu naître il y a 3 ans un building en bois massif de 86 mètres de hauteur. Est-ce qu'on va assister à une espèce de forêt de building en bois, se demande Futuration. C'est une bonne question. En tout cas, le projet qui s'appelle Neutral Edison bien, ça suit la voie qui avait été ouverte en Norvège. C'est donc un gratte-ciel en bois qui prouve que l'alternative aux matériaux conventionnels est un phénomène qui fonctionne et qui évolue. De plus, il place donc la ville de Milwaukee à l'avant-garde des métropoles américaines qui savent construire en respectant le climat. Alors le promoteur, qui s'appelle Neutral, explique par ailleurs que le bâtiment répondra aux préoccupations actuelles en matière d'impact environnemental, notamment grâce à l'utilisation de matériaux de construction durable. Grâce à l'emploi donc de ces matériaux, eh bien, ce nouveau bâtiment, le Neutral Edison, devrait engendrer une consommation d'énergie de 45% de moins par rapport aux bâtiments conventionnels, traditionnels. C'est quand même assez intéressant, bien évidemment. Ce bâtiment sera situé au cœur du centre-ville de Milwaukee. Il y aura presque 380 appartements de luxe à louer sur 32 étages. Et il y aura aussi presque 700 mètres carrés d'espaces commerciaux. Donc on est quand même sur une cible assez aisée. Hein. On n'est pas dans des HLM. Ce nouveau gratte-ciel en bois va offrir à ses habitants l'opportunité de bénéficier de plusieurs espaces de loisirs et bien-être. Il y aura une salle de sport, une piscine, un sauna, une salle de cinéma et un jardin communautaire. On suivra ça, parce que quand même un bâtiment aussi grand, plus de 100 mètres, hein, 110 mètres de haut en bois, c'est quand même assez... C'est une prouesse technologique, hein, vraiment intéressante, bien évidemment. Autre sujet encore, parce que là, c'est les articles de la semaine dernière que je n'avais pas eu le temps d'évoquer. L'huile de palme. En 10 ans, la demande en huile de palme a augmenté de plus de 80%. Alors, pas loin de la moitié des produits emballés exposés dans les rayons de nos supermarchés contiendraient cette huile de palme, sous une forme ou sous une autre. Hein. Et donc, pour répondre à cette explosion de la demande, on brûle des arbres, histoire de faire place nette et de pouvoir planter toujours plus de palmiers à huile en Asie du Sud-Est et bientôt aussi en Afrique. C'est l'une des principales causes de la déforestation et de la perte aussi de biodiversité, des émissions de gaz à effet de serre, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, bref, tout ça est combiné ensemble. Alors les chercheurs se sont mis en quête de substituts et une alternative écologique à l'huile de palme a été trouvée. En tout cas, c'est ce que des chimistes de l'université de Bath en Royaume-Uni espèrent avoir enfin trouvé. C'est une levure. Alors, qui s'appelle comment ? Encore des noms compliqués. Hein. Metchnikovia pulcherrima. Cette levure, elle pousse sur le raisin et elle contient naturellement déjà environ 20% de matière grasse. Ce que les chercheurs ont réussi grâce à des techniques dites d'évolution dirigée, c'est d'augmenter ce pourcentage. Ils ont réussi à développer des levures constituées environ pour moitié de matière grasse. C'est quand même assez étonnant. Des levures qui en plus présentent un taux de croissance multiplié par 3. Et donc pour produire une huile alimentaire, il suffit désormais de disposer la levure dans une grande cuve et de lui donner un petit peu des déchets alimentaires. Et une fois la levure suffisamment dense, eh bien ces cellules se fissurent, elles vont libérer l'huile qui ne restera plus qu'à raffiner par la suite. La partie non grasse de cette levure, elle peut être transformée en d'autres ingrédients alimentaires, comme des émulsifiants aussi, nous dit-on. Alors les chercheurs rapportent que des modifications de température ou d'acidité du milieu ou même de matière première permettent de modifier le goût, la texture ou encore le profil nutritionnel de l'huile qu'on arrive à produire. C'est-à-dire, on peut mettre à donner à manger à ces levures des herbes, des déchets alimentaires, des algues. Et donc tout ça, bien sûr, a une incidence sur l'huile qui est produite. Le tout peut se jouer localement, nous dit-on, ce qui peut être aussi intéressant. Nous pourrions installer ce système dans une banlieue, récupérer les déchets des usines de la ville, produire l'huile et la réinjecter dans le marché alentour, c'est ce qu'assurent les chimistes. Une cuve de fermentation de 1500 litres, hein, qui occupe 1 mètre carré au sol, donc c'est quand même pas non plus important, suffira à produire autant d'huile qu'un hectare entier de palmiers à huile. Donc effectivement, là, on est quand même sur quelque chose qui peut être vraiment intéressant. Les chercheurs et l'entreprise Clean Food Group, qu'ils ont lancée en 2022, projettent la commercialisation d'une version cosmétiques de leur huile à base de levure dès la fin de cette année. Donc on pourra le voir assez rapidement. La version alimentaire arriverait début 2026. Donc voilà, on aurait donc, notamment pour ceux qui sont accros au Nutella avec l'huile de palme à l'intérieur, une solution qui permettrait d'avoir bonne conscience et qui permettrait justement d'avoir un peu une, comment dire, une alternative à ces saccages de déforestation avec ces palmiers à huile grâce à cette petite levure, voilà, qu'on met dans une cuve et qui nous donne l'huile que l'on souhaite et que l'on veut. C'est quand même bien fait, franchement, quelque part. Je vous souhaite un bon appétit si vous êtes en train de manger du Nutella ou un autre produit transformé à base d'huile de palme. Bientôt vous aurez de l'huile de palme produite par des déchets alimentaires qui ont été mâchouillés par des levures dans des grandes cuves à côté de chez vous, en banlieue. Voilà, c'est le résumé de l'article, il est là en fait. C'est ça ce qu'on vient d'évoquer dans cette émission. C'est ça Biotine, c'est la revue de presse d'actualité scientifique. On parle vraiment d'un peu tous les sujets, bien évidemment. Bah, écoutez, encore un titre et comme on parlait aussi de réchauffement climatique, on va parler de ce plus grand iceberg du monde qui est en train de disparaître sous nos yeux à grande vitesse. Ça sera juste après The Gens sur l'antenne de Graphite. A tout de suite. Shadow Show, c'était The Gents sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Biotine, sur Graphite.
94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Il s'est détaché de l'Antarctique, il pesait près de 1000 milliards de tonnes et il était grand comme deux fois le grand Londres, c'est ce que rapportaient les scientifiques. Mais ça, c'était il y a une quarantaine d'années, c'était en août 1986 quand il s'est détaché de l'Antarctique. Depuis, cet iceberg, on a vécu des aventures. Depuis plus de 30 ans, il reste bloqué dans la mer de Weddell. Et puis, il s'est remis à dériver vers des eaux plus chaudes. Il y a un an environ, il s'était retrouvé piégé à nouveau dans un tourbillon d'eau cette fois. Les chercheurs estimaient qu'il pourrait y rester plusieurs années. Mais quelques mois plus tard à peine, cet iceberg avait repris sa route jusqu'à venir récemment s'échouer au large de l'île de la Géorgie du Sud. Fin mai de cette année, il s'est finalement une nouvelle fois délogé, se mettant à voyager à grande vitesse. Les images le montrent parcourir parfois 20 km dans une même journée. Et voici qu'aujourd'hui, les chercheurs du British Antarctic Survey annoncent que l'iceberg se désagrège de manière assez spectaculaire. Il est en train de disparaître. Selon les images du réseau Copernicus, eh bien, sa taille aurait déjà diminué de moitié après que d'énormes morceaux d'environ 400 km s'en sont détachés récemment. Ces morceaux, d'ailleurs, menacent toujours les bateaux qui pourraient les croiser dans les environs. Alors, ce qui arrive à cet iceberg n'est absolument pas surprenant. Ce qu'il a été pour les scientifiques, c'est plutôt sa longévité exceptionnelle, car les icebergs sont tous condamnés d'avance, un peu plus encore à partir du moment où il s'éloigne de l'Antarctique. Finalement, alors lui aussi exposé à des eaux de plus en plus chaudes, secoué par d'énormes vagues et presque 40 ans après le fait qu'il se soit détaché de l'Antarctique, eh bien cet iceberg est en train de vivre ses dernières semaines. Il est en train de disparaître sous nos yeux à grande vitesse. C'était le plus grand iceberg du monde qui s'était détaché il y a 40 ans. C'est quand même, là encore, une illustration du réchauffement climatique, bien évidemment. On a appris, alors j'ai pas la liste sous les yeux, que certaines mairies avaient supprimé le thon dans les repas des cantines scolaires. Le thon figure parmi les poissons les plus appréciés mondialement, mais sa consommation soulève des préoccupations en raison de sa teneur en mercure. Il y a une équipe de scientifiques suédois qui a récemment développé une solution innovante pour réduire significativement ce contaminant, le mercure, tout en préservant les qualités nutritionnelles du poisson. Et cette découverte, qui s'appuie sur l'utilisation d'un acide aminé naturel, pourrait transformer notre façon de consommer le thon en toute sécurité. Donc des chercheurs de l'Université suédoise des sciences agricoles et de l'Université de technologie de Chalmers ont mené des expériences décisives sur le thon en conserve. En fait, leur approche consiste à immerger le poisson dans une solution qui contient de la cystéine. La cystéine, c'est un acide aminé naturellement présent dans notre alimentation. Un acide aminé, vous en prenez plusieurs et vous constituez une protéine. C'est l'un des éléments constituant d'une protéine. Et là, la cystéine, c'est un acide aminé parmi tant d'autres. Le chimiste, il a encore un prénom, Jemislav Strakowski de l'Université Technologique de Chalmers, il explique, ce chimiste. Nous avons choisi la cystéine pour sa capacité à se lier fortement au mercure. Ce mécanisme permet d'extraire une partie du mercure du poisson pour qu'il se fixe à la solution et qu'il soit ainsi éliminé. Alors, il y a des tests en laboratoire qui ont été effectués qui confirment l'efficacité de cette méthode avec une réduction de 25 à 35% de la concentration en mercure. Effectivement, c'est quand même des résultats assez intéressants. Plus la chair du poisson entre en contact avec la solution, plus la quantité de mercure extraite est importante. Et donc, cette découverte s'inscrit dans la continuité de précédentes recherches qui avaient été menées par la même équipe sur l'élimination du mercure et dont les travaux ont été publiés notamment dans la revue Global Challenges. L'innovation majeure, en fait, de cette découverte, elle réside dans sa simplicité d'application. Selon les chercheurs, cette technique pourrait être intégrée directement dans le processus d'emballage des conserves de thon sans nécessiter d'étapes supplémentaires de production. L'avantage de ce type d'emballage est qu'il reste actif pendant toute la durée de conservation du produit sur les étagères. Et cette caractéristique permettrait une réduction progressive et continue du mercure, ce qui offre ainsi une marge de sécurité accrue pour la consommation de thon. Alors les tests qui ont été effectuées confirment que ce traitement ne modifie ni l'apparence ni l'odeur du poisson. Le processus d'extraction du mercure se poursuit jusqu'à 2 semaines après l'application sans nécessité d'additifs supplémentaires. Le poisson, et particulièrement le thon, présente de nombreux avantages nutritionnels qui sont reconnus parce qu'il constitue notamment un élément clé du régime méditerranéen qui est apprécié pour ses bienfaits sur la santé. Par contre, la présence de mercure reste une préoccupation, notamment pour certaines populations vulnérables, notamment au niveau des femmes enceintes, des jeunes enfants, et y a quand même des risques aussi généralement faibles avec une consommation modérée pour la population générale, mais enfin ça reste quand même assez inquiétant. Oula, pardon, je fais un peu de brique mes feuilles d'une façon générale. Notre étude montre qu'il existe des approches alternatives pour traiter la contamination au mercure dans le thon, plutôt que de simplement limiter sa consommation. C'est ce qu'affirme Mehdi Abdelali, qui est scientifique alimentaire dans cette université technologique de Chalmers. Il explique que notre objectif est d'améliorer la sécurité alimentaire et de contribuer à une meilleure santé humaine. Alors, les résultats semblent apparemment prometteurs. Il y a des recherches supplémentaires qui restent nécessaires pour transformer cette découverte en solution industrielle viable. Les scientifiques travaillent notamment sur la gestion du mercure qui est extrait. Pardon, excusez-moi. Ils travaillent également sur l'optimisation de ce nouveau process. Les chercheurs estiment que cette méthode pourrait être perfectionnée à l'avenir, ce qui va ouvrir un peu la voie à des applications plus larges dans l'industrie alimentaire. Et donc, cette avancée représente une opportunité significative pour mieux valoriser des ressources alimentaires actuellement soumises à certaines restrictions. Alors, cette découverte, elle illustre parfaitement comment la science peut offrir des solutions pratiques à des problèmes de sécurité alimentaire, ce qui permet de concilier les bénéfices nutritionnels du thon avec une réduction des risques liés au mercure. Donc, voilà, on aurait peut-être trouvé une solution. À voir, bien sûr, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre en application cela pour voir si à grande échelle c'est quelque chose qui est réalisable et si on est bien totalement, comment dire, en termes de sécurité, totalement dans les règles, hein, dans les clous. Mais voilà, ça pourrait permettre une solution assez intéressante par rapport à cette pollution au mercure. Et donc, c'est ce que je disais juste avant de vous lire cet article de Futura Science, c'est que il y a quand même plusieurs municipalités françaises qui ont interdit le thon dans les menus des cantines scolaires, notamment en raison de cette présence de mercure assez importante. Voilà. Alors, comme on parle un petit peu aussi de santé alimentaire, enfin de santé et de sécurité alimentaire, il y a cet autre article aussi que je trouvais intéressant qui concerne cette fois les céréales du petit déjeuner. Il y a de quoi faire. Hein, je veux dire, le rayon des céréales du petit déjeuner, il y a quand même pas mal de choses. Et pourtant, ça pourrait être le pire produit à donner à nos enfants si vous souhaitez qu'ils soient attentifs en classe. Ces céréales industrielles ont de grands défauts. D'abord, ce sont des produits ultra transformés dont les effets néfastes sur la santé, c'est-à-dire l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, sont désormais bien documentés. Il y a pas mal de choses que l'on peut voir sur la liste des ingrédients qui permet de se dire que c'est vraiment, vraiment ultra transformé. Ensuite, les céréales du petit déjeuner fournissent trop de glucose à l'organisme. Non seulement leur teneur en sucre est globalement trop élevée, mais également les processus de fabrication rendent les glucides lents, beaucoup plus faciles à digérer, ce qui les rend un petit peu équivalents à du sucre pur pour l'organisme. C'est-à-dire que normalement, les glucides lents dans certaines céréales, elles mettent du temps à pouvoir être digérés et donc apporter du sucre dans l'organisme. Sauf que là, le process qui est utilisé dans les entreprises agroalimentaires font que ces glucides sont moins lents entre guillemets que d'habitude et donc ils sont plus directement digérés, donc le taux de sucre est est vraiment important. Alors, quelques exemples qui sont donnés. Les cornflakes contiennent relativement peu de sucre par rapport au Chocapic, mais paradoxalement, elles ont un index glycémique plus élevé en raison justement des transformations industrielles qu'a subi le maïs, dont les pétales de maïs forment ces cornflakes. Et ce maïs va être transformé très rapidement en glucose dans le système digestif et fera grimper aussi vite la glycémie que s'il s'agissait du sucre. C'est ça que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ces fameux glucides un peu lents le sont un petit peu moins. Et donc, dès que vous le mangez, déjà, vous avez tout de suite du sucre dans l'organisme. Résultat, après un grand bol de céréales industrielles, la glycémie de l'enfant risque de monter en flèche. Et pour y faire face, le pancréas va réagir en sécrétant une grande dose d'insuline qui vise à abaisser même un peu trop la glycémie, avec comme conséquence ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle vers 11 heures. C'est le fameux coup de barre de 11 heures qui fait qu'on décroche pendant les cours et qu'on se met à penser à ce qu'on mangera à la cantine. Les études montrent que pour maintenir l'attention tout au long de la journée, le cerveau des enfants a besoin d'un approvisionnement continue en glucose. Ainsi, un petit déjeuner à index glycémique élevé, c'est-à-dire qui va entraîner une augmentation intense et rapide du sucre dans le sang, suivi d'une chute brutale, et bien, ça va limiter les capacités cognitives. Au contraire, il faudrait un petit déjeuner constitué d'aliments à index glycémique modéré ou bas, favoriser une augmentation plus lente et prolongée de la glycémie, et tout ça améliore l'attention et les apprentissages par rapport aux glucides qui provoquent des pics après l'ingestion, c'est-à-dire un pic direct après l'ingestion, bien évidemment. Alors, il faudrait donc idéalement se débarrasser des céréales industrielles, mais aussi des biscuits de petit déjeuner, des viennoiseries, des yaourts sucrés, des jus de fruits. L'idée, c'est pas nécessairement de diaboliser ces produits, mais c'est d'éviter qu'ils ne deviennent la base du petit déjeuner quotidien. Il faut donc chercher à les remplacer par des aliments plus sains, mais appréciés des enfants. L'objectif, c'est d'éviter qu'ils ne sautent ce repas fondamental de la journée en identifiant les composants qui leur plaisent le plus et qui sont le plus faciles à préparer. En effet, il y a une étude chinoise publiée dans la revue Early Human Development qui explique que les enfants qui prennent régulièrement un petit déjeuner presque tous les jours obtiennent des scores nettement plus élevés au test de QI global que les enfants qui prennent parfois leur petit déjeuner. Alors, selon The American Academy of Pediatrics Committee on Nutrition, donc c'est le cercle des pédiatres de l'Académie américaine, donc ça veut dire des experts de la pédiatrie, ils expliquent que prendre un petit déjeuner sain permet d'avoir une meilleure mémoire, des meilleurs résultats scolaires et une meilleure capacité d'attention. Alors globalement, les aliments peu sucrés, peu transformés, peu raffinés ou même bruts sont ceux qui présentent les indices de glycémie les plus bas et aussi les meilleures teneurs en fibres, en vitamines et en minéraux qui sont indispensables au bon fonctionnement du cerveau. Ce sont les plus adaptés pour le petit déjeuner des enfants, même s'ils n'ont pas toujours leur faveur, bien évidemment, c'est ça qui est compliqué. Il faudra donc passer une petite phase qui vise à les déshabituer du goût sucré avant de trouver la bonne vitesse de croisière. Donc, le petit déjeuner idéal comprend trois catégories d'aliments. Il y a un produit laitier, nature, source de calcium, de protéines, de vitamines. Donc ça peut être du lait, du yaourt de vache, de brebis, même de soja, petit suisse, fromage blanc. Il faut aussi un vrai fruit pour les fibres, les vitamines, les minéraux. Et des céréales complètes, donc du pain complet, au levain ou aux graines, ou des flocons d'avoine achetés dans le commerce sous forme de muesli, ou alors mélangés avec du lait, du yaourt et des fruits. N'hésitez pas aussi à proposer à vos enfants une source de protéines, donc ça peut être un œuf dur, un œuf au plat, du jambon, des fruits secs, des purées d'oléagineux, donc purée d'amandes, de noisettes, de sésame, des smoothies au lait et aux fruits, des granolas aussi, hein, c'est un mélange de flocons de céréales, d'oléagineux, de fruits secs, de matières grasses, de miel ou de sucre que l'on passe au four. Alors, il y en a qui existent déjà tout près au commerce. Et puis, ne pas hésiter non plus à donner un encas sous la forme d'un sandwich ou d'un fruit à manger à l'école si l'enfant n'a pas vraiment faim le matin. Mais voilà, il faudrait idéalement bannir ces céréales du petit déjeuner hyper transformé. Ah, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'en aurait dit Gainsbourg de tout ça ?
Le soleil est rare et le bonheur aussi. L'amour s'égare au long de la vie. Le soleil est rare et le bonheur aussi, mais tout bouge au bras de mélodie. Les murs d'enceinte du labyrinthe s'en trouve sur l'infini. Le soleil est rare et le bonheur aussi, mais tout bouge au bras de mélodie. Le soleil est rare et le bonheur aussi, mais tout bouge au bras de mélodie.
Valse de mélodie, c'était The Serge Gainsbourg Experience. C'est doux, fait du bien dans ce monde cruel que nous vivons.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Et bientôt la fin de cette émission. Déjà, ça passe quand même très très vite. Et on va terminer avec ce dernier article de Futura Science. Alors, Futura Science, c'est un site internet qui propose vraiment des articles qui abordent tous les sujets scientifiques, technologiques, d'une façon vraiment didactique, vulgarisée et donc adaptée au plus grand public. Et c'est vraiment intéressant. Et j'ai très très souvent des articles que je pioche pour cette émission dans ce site Futura Science, parce que voilà, ça permet d'aborder différents sujets et ne pas rester focalisé sur certaines thématiques. Là, on est quand même depuis un certain temps sur une thématique médecine. Eh bien, on va continuer, on va terminer avec donc cette thématique médecine dans cette émission. Comment savoir bien avant les premiers symptômes lourds si la mémoire commence déjà à vaciller ? C'est l'article qui démarre comme ça. Et c'est quand même assez intéressant parce que c'est l'un des plus grands défis de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Car aujourd'hui encore, le diagnostic arrive souvent tardivement quand les troubles de la mémoire, du langage ou de la pensée ne peuvent plus être ignorés. Or, les nouveaux traitements en développement tels que le donanemab ou le lecanemab montrent leur efficacité surtout lorsqu'ils sont administrés au tout début de la maladie. D'où l'importance cruciale de repérer les signaux précoces. Et c'est précisément ce que pourrait permettre un nouveau test cérébral de quelques minutes seulement qui vient de faire l'objet d'un essai clinique prometteur qui a été publié dans la revue Brain Communications. Le dispositif, qui est baptisé Fastball, est développé par des chercheurs de l'université de Bath au Royaume-Uni et repose sur un électroencéphalogramme. Donc, vous savez, ces électrodes qu'on vous met autour du sur le crâne, capables d'enregistrer l'activité électrique du cerveau pendant que le participant visionne un flux d'images. Il est testé, ça a été testé auprès de 54 adultes en bonne santé et de 52 personnes atteintes de troubles cognitifs légers. Et l'outil a permis d'identifier des réponses cérébrales réduites chez les patients qui présentaient justement ces troubles légers, notamment un trouble léger amnésique, qui est la forme la plus susceptible d'évoluer vers Alzheimer. Le protocole qui est mené par le docteur George Stotfart est d'une grande simplicité. Il y a 8 images qui sont d'abord présentées aux volontaires, puis réintégrées parmi des centaines d'autres. Et donc, l'électroencéphalogramme enregistre alors la capacité du cerveau à reconnaître automatiquement les images qui ont déjà été vues. Selon le docteur George Stotfart, qui est donc neuroscientifique et qui est à l'origine de ce projet, il explique: avec les outils de diagnostic actuels, les 10 à 20 premières années du déclin cognitif lié à la maladie d'Alzheimer sont passées inaperçues. Cette recherche offre une solution. Et donc un autre avantage, c'est que le test a pu être réalisé au domicile des participants, ce qui rend la démarche plus accessible et en tout cas moins anxiogène, bien sûr. Alors pour les spécialistes, cette étude est prometteuse mais encore insuffisante pour changer la pratique clinique. Vladimir Litvak, qui est professeur de neurophysiologie translationnelle à l'Institut de neurologie de Queen Square, il tempère un petit peu, il dit: cette étude représente une première étape vers un test cliniquement utile, mais la capacité à prédire l'évolution clinique d'un individu reste à démontrer. Donc ils sont encore un petit peu perplexes. Il y a également docteur Julia Dudley, qui est directrice de la recherche dans le centre de recherche sur Alzheimer britannique. Elle souligne l'urgence d'avancer. Il y a trop de familles qui sont confrontées à la démence sans réponse. Une personne sur trois vivant sans diagnostic. Les nouveaux traitements contre la maladie d'Alzheimer s'avèrent plus efficaces lorsqu'ils sont administrés à un stade précoce de la maladie. Un diagnostic précoce est donc essentiel pour en tirer profit. Il y a donc voilà, ils ne sont pas tous d'accord. Il y a plus de 130 médicaments contre Alzheimer qui sont en phase avancée d'essais cliniques. La perspective d'identifier de façon précoce les patients les plus à risque n'a jamais été aussi stratégique, et donc ce test Fastball, ne constitue pas encore une solution définitive, mais il ouvre une voie claire, celle d'un dépistage plus précoce et plus accessible de la maladie. Donc voilà, un test simple fait en quelques minutes chez soi qui pourrait révéler des signes précoces de la maladie d'Alzheimer. C'est assez prometteur, c'est assez intéressant. Mais bien évidemment, on est encore loin de quelque chose qui pourrait être efficace et en tout cas diffusé à un plus grand nombre. C'était Biotine, l'émission d'actualité scientifique, tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. La rediffusion mardi matin à 10h. Le graphite.net, hein, le site internet qui vous permet de récupérer tous les podcasts de toutes les émissions de Graphite, bien évidemment. Quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Au revoir.